VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 3 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Afrique du Sud, hommage à Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, décédée à l'âge de 81 ans.
Amnesty International demande à Bamako des enquêtes sur des exécutions extrajudiciaires dans le centre du Mali.
Nouveau retard dans la publication des résultats du second tour de la présidentielle en Sierra Leone.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi officiellement réélu en second mandat avec 97% des voix.
En Syrie, les rebelles ont commencé à évacuer hier leur dernier bastion dans la Ghouta orientale.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président noir sud-africain, est décédée hier à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. De nombreux hommages lui ont été rendus malgré son parcours controversé. Le point avec Morgan Guiriec.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans une brève allocution télévisée, a déclaré « Nous avons perdu une mère, une grand-mère, une amie, une camarade, une meneuse ». L'ANC au pouvoir a fait l'éloge d'une femme qui symbolisait la force, la résistance et une âme éternelle de la liberté. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a salué un symbole majeur de la lutte anti-apartheid. En 1958, Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela épouse Nelson Mandela. Son mari sera condamné en 1964 à la prison à perpétuité et pendant ses 27 ans de prison, Winnie deviendra l'icône de la lutte contre l'apartheid. Une image ternie par ses frasques, son discours violent et les accusations de meurtre contre ses gardes du corps. À la sortie de prison de Nelson Mandela en 1990, elle marche main dans la main à ses côtés dans une image qui fera le tour du monde. Mais leur divorce est prononcé en 1996. À sa mort en 2013, Nelson Mandela, qui s'était entre-temps remarié avec Graça Machel, ne lui a rien légué. Winnie, amère, a même saisi la justice sans obtenir satisfaction.
Amnesty International a appelé aujourd'hui les autorités maliennes à faire la lumière sur des exécutions extrajudiciaires dans le centre du Mali, où 6 corps ont été retrouvés dans une fosse commune la semaine dernière. Il y a une semaine, des associations PEUL et de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, ont réclamé l'ouverture d'une enquête après la découverte à Dogo des dépouilles de 6 personnes arrêtées quelques jours plus tôt, selon elle, par l'armée.
Les résultats du second tour de la présidentielle en Sierra Leone sont maintenant attendus d'ici à jeudi, soit un retard de quelques jours dû à des désaccords entre les candidats sur la méthode de dépouillement du scrutin. C'est ce qu'a annoncé hier la commission électorale du pays, Jacques Aristide.
La commission a dû interrompre brièvement le dépouillement des bulletins de vote pour régler un désaccord sur la manière, manuelle ou à l'aide d'un logiciel, de compiler les résultats au niveau des centres régionaux. 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, la NEC n'avait donné aucune indication sur le résultat, qui s'annonçait serré selon des analystes interrogés avant le scrutin, qui s'est tenu le 31 mars avec 4 jours de retard sur le calendrier initial. Au premier tour, le candidat de l'opposition, l'ancien militaire Julius Maada Bio, avait remporté 43,3% des suffrages, soit une avance de 15 000 voix sur Samora Camara, candidat du parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages. Hier, les 2 finalistes, après des heures de négociations, sont parvenus à un compromis et le dépouillement a pu reprendre. Monsieur Bio et M. Camara se sont donné l'accolade devant les caméras à l'issue de cette réunion de conciliation, alors que leurs 2 partis se sont mutuellement accusés de vouloir faire monter la tension. Tous 2 ont lancé un appel à la patience et au respect des résultats qui seront proclamés.
Le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition Seloud Alain Diallo ont conclu hier un accord pour résoudre les contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février et mettre fin aux manifestations, ont annoncé les 2 partis. Messieurs Condé et Diallo ont convenu d'une série de mesures pour désamorcer la tension, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Le chef de l'État guinéen a par ailleurs donné instruction de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, afin de les traduire en justice selon le communiqué.
En Égypte, pas de suspense, le président Abdel Fattah al-Sissi a été réélu à un second mandat avec 97% des voix. C'est ce qui ressort des résultats officiels de l'élection de la semaine dernière. Son seul adversaire était une figure politique obscure qui, de surcroît, avait auparavant appuyé la candidature de M. Sissi à la réélection. Selon la Maison-Blanche, le président Donald Trump a appelé M. al-Sissi pour le féliciter et souligner, comme son homologue égyptien, le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte.
Les Nations Unies ont contesté hier des affirmations du Maroc selon lesquelles le Front Polisario a mené des incursions dans une zone tampon du Sahara occidental où l'ONU est chargée de surveiller le cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité avait été alerté à ce sujet dimanche par le représentant permanent de Rabat. Mais selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, la mission onusienne au Sahara occidental n'avait observé aucun mouvement d'éléments militaires dans le territoire nord-est. La MINURSO, a-t-il ajouté, continue de surveiller la situation de près.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a suspendu hier soir un accord conclu avec l'ONU pour régler le sort de milliers de migrants africains vivant en Israël, quelques heures à peine après l'avoir annoncé. Le point avec Jean-Roger Bion.
Cet accord prévoit la réinstallation de plus de 16 000 Soudanais et Érythréens vivant en Israël dans des pays occidentaux. En échange, l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent d'entre eux devant rester sur son territoire. « J'ai décidé de suspendre l'application de cet accord et d'en repenser les termes », a écrit M. Netanyahou sur sa page Facebook lundi soir, affirmant avoir été attentif aux critiques de certains habitants de Tel Aviv où vivent la plupart de ces migrants contre cet accord. Certains de ces habitants dénonçaient le fait que des milliers de Soudanais et d'Érythréens soient autorisés à rester en Israël. La suspension de l'accord avec l'ONU, que M. Netanyahou avait annoncé en grande pompe le même jour, a surpris la classe politique. Le député de l'opposition travailliste Itzik Shmouli a évoqué sur Twitter le mal de tête provoqué par les zigzags de Netanyahou, tandis que le chef de son parti, Avi Gabe, a qualifié cette annonce d'inquiétante.
En Syrie, les forces gouvernementales se rapprochent d'une victoire totale dans la Ghouta orientale. Des rebelles ont commencé hier à évacuer l'enclave aux portes de Damas. Le point avec Eric Manirakiza.
D'après la télévision d'État syrienne, 12 bus transportant plus de 620 membres du groupe radical islamiste Jaïch al-Islam et leurs familles sont sortis de Douma. Le mouvement rebelle n'a pas confirmé l'information sur ce retrait de l'ultime poche rebelle. L'opération fruit d'un accord avec la Russie devrait prendre plusieurs jours, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les groupes insurgés ont accepté un à un d'abandonner leur position après 5 semaines de bombardements intenses qui ont fait plus de 1600 morts. Le régime de Damas a dit ces derniers jours que plus de 46 000 personnes, environ un quart de combattants, ont déjà gagné la province d'Idleb dans le nord-ouest du pays. Avec ces évacuations orchestrées par Moscou, le pouvoir syrien contrôle maintenant près de 95% de la Ghouta orientale et le reste ne sera qu'une question de jours. La chute de la Ghouta marquerait une des pires défaites pour les rebelles dans la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 7 ans.
La Birmanie a accepté une visite du Conseil de sécurité de l'ONU après des mois de résistance, mais sans établir clairement si les ambassadeurs onusiens pourront se rendre dans l'état de Rakhine, a indiqué hier le président en exercice du Conseil. Près de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya qui vivaient dans l'ouest de la Birmanie, pays à forte majorité bouddhiste, ont fui en masse depuis août vers le Bangladesh sous la menace de l'armée birmane.
La présidente de la Cour suprême du Brésil a appelé au calme hier, la tension étant à son comble, à 2 jours d'un jugement qui pourrait envoyer l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva derrière les barreaux. Dans un Brésil très polarisé, les incertitudes sur le sort de Lula attisent toutes sortes de tensions à 6 mois de l'élection présidentielle la plus imprévisible de ces dernières décennies. Donné en tête des intentions de vote, l'ex-président de 72 ans, qui a déjà dirigé le pays de 2003 à 2010, joue ses dernières cartes pour éviter de purger une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption.
Grève massive des cheminots en France. Le mouvement est susceptible de paralyser le pays pendant 3 mois et constitue un défi majeur pour le président Emmanuel Macron et sa volonté de réformer le pays. Le transport ferroviaire est emprunté chaque jour par 4,5 millions de Français. La grogne se poursuit également dans les airs où la compagnie Air France fait face à une 4e journée de grève en 1 mois de son personnel qui réclame une augmentation générale des salaires.
Nouvelle chute hier à Wall Street des indices Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 après de nouveaux tweets du président américain Donald Trump attaquant Amazon, le géant du commerce en ligne, et la décision de la Chine de mettre à exécution des mesures punitives contre 128 produits américains en réponse à l'annonce par M. Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Le président américain a vivement critiqué à 3 reprises ces derniers jours Amazon, dont le fondateur Jeff Bezos est le propriétaire du Washington Post, dont les révélations sur M. Trump et son administration ont valu au grand quotidien de la capitale lire de Donald Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Eric Manirakiza.
La Banque mondiale accorde 50 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour la sécurité foncière en milieu rural. Ce financement permettra de renforcer les institutions responsables de la mise en œuvre de la politique foncière dans les zones rurales et à introduire un réseau géodésique et un cadastre viable. Il vise aussi à concevoir et tester un processus bon marché, simplifié et participatif d'enregistrement systématique des droits fonciers, notamment coutumiers. La Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation ont octroyé 100 millions de dollars à Madagascar pour l'éducation de base. C'est notamment pour améliorer l'apprentissage pendant les 2 premières années du primaire dans les écoles publiques. La formation des enseignants sera également renforcée dans les domaines de la lecture et du calcul. Il prévoit aussi la création de 1000 centres d'apprentissage précoce en association avec les collectivités locales et la construction de 800 salles de classe. Le projet a aussi pour objet d'améliorer la fréquentation scolaire, de réduire les taux d'abandon et de mieux préparer les enfants à l'école. La Chine et les États-Unis sont à couteau tiré sur le commerce et sont engagés dans un bras de fer. Pékin a pris des mesures punitives contre 128 produits américains en réponse à la décision du président Donald Trump d'imposer des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Ligue des Champions, les premiers quarts de finale.
Et oui, l'affiche entre la Juventus Turin et le Real Madrid lance en majesté les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Autre match ce soir, le Bayern Munich qui devra se méfier de Séville en Andalousie. Mais revenons sur ce match, Juventus-Real, c'est la finale de la saison dernière lorsque le club espagnol s'était imposé 4-1. Mais l'équipe de Massimiliano Allegri est la dernière à avoir éliminé le Real lors des demi-finales 2015. Cette rencontre de gala verra aussi le retour de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane à Turin où il a joué. Et cette rencontre mettra aux prises un club italien 2 fois finaliste en 3 ans face au double tenant du titre espagnol. Dans l'autre match de la soirée, je le disais, Séville-Bayern de Munich, a priori, c'est déséquilibré. Les Munichois, à l'effectif rempli de stars, en sont à leur 7e quart de finale d'affilée en Ligue des Champions. Et pour les Andalous, c'est une première depuis 60 ans. En effet, le dernier quart de finale remonte à 1958.
Et demain, autre choc.
Kevin De Bruyne et Mohamed Salah vont s'affronter mercredi sous les couleurs de Manchester City et Liverpool dans un quart de finale de Ligue des Champions au parfum spectaculaire. Salah impressionne avec ses 37 buts dont 29 en Première Ligue pour un Liverpool chatoyant qui lutte avec Manchester United pour la place de dauphin de Manchester City. Autre match, c'est le FC Barcelone qui reçoit l'AS Rome. Le milieu défensif Sergio Busquets, rétabli d'une fracture à un orteil, a repris hier l'entraînement avec les Blaugrana qui sont en lice pour un triplé Liga, Coupe, Ligue des Champions cette saison, comme en 2009 et en 2015.
En Italie, bataille à 3 pour les 2 places restantes en Ligue des Champions.
Et oui, l'Inter Milan qui pourrait prendre l'avantage ce mercredi sur l'AS Rome et la Lazio s'il remportait la rencontre, l'opposant au Milan AC dans le cadre des matchs en retard de la 27e journée de la Serie A. En cas de victoire dans ce derby milanais, l'Inter remonterait à la 3e place derrière les intouchables, leader, la Juventus et Naples.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Winnie Madikizela Mandela est décédée hier dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Elle était la seconde épouse de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud. Femme très engagée, elle militait au sein de l'ANC aux côtés de son mari et sans relâche durant les 27 années de prison de celui-ci. Pour revenir sur le legs de Winnie Mandela, Jacques Aristide s'est entretenu avec Kofi Kwaku, maître de conférence à Wits University de Johannesburg.
Évidemment, c'est une figure illustre qui a vraiment combattu contre l'apartheid. En fait, elle a subi des pressions, des traumatismes, des dépressions et de l'oppression et tout ça. Donc, c'est un symbole vraiment très important pour, pas seulement l'ANC, mais la libération de l'Afrique du Sud et surtout en Afrique australe où cette libération, ce que les gens appellent en anglais le struggle, c'est-à-dire la lutte pour l'émancipation, s'est passée. Elle reste une figure très importante. Elle reste un symbole très important.
Mais elle était controversée. 1986, elle appelle à libérer le pays avec des allumettes. 1992, elle est accusée de corruption et mauvaise gestion. Elle est démise de ses fonctions à l'ANC. Ces polémiques ont-elles terni son image de militante aux côtés de Nelson Mandela?
Non, pas du tout. Pour ses supporters, elle reste toujours un symbole très important. Par exemple, vous avez ici Julius Malema, le jeune cacique de ce qu'on appelle EFF, un nouveau parti, qui est très jeune, qui est aussi très fort dans les questions de liberté économique. En fait, elle restera toujours le symbole et la parraine de Julius Malema. Donc elle a toujours beaucoup de gens qui la supportent. C'est vrai que son image a été un peu ternie, mais elle reste toujours très 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 supportée en Afrique du Sud.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique du Sud et pour peut-être de jeunes militants, etc. Donc qu'est-ce que cela représente?
Pour nous, pour les gens aussi, les jeunes militants en Afrique, nous les observateurs et même tous les autres, c'est vraiment une ancienne page qui est tournée. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats, il y a toujours beaucoup de débats en ce moment en Afrique du Sud sur les questions de génération, c'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont lutté pour la paix et la libération en Afrique du Sud, doivent maintenant laisser la place aux jeunes loups qui doivent, eux, décider du futur de l'Afrique du Sud. Donc, sa mort permettra quand même de tourner la page, mais aussi de regarder un peu vers le futur, parce que l'Afrique du Sud a vraiment besoin de nouveaux leaders, d'une nouvelle jeunesse et d'une nouvelle idéologie qui lui permettra de vraiment tourner la page et de regarder vers le futur, plus que de regarder surtout vers le passé.
Kofi Kwaku, maître de conférence à Witwatersrand, Université de Johannesburg.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la vie et l'héritage de Winnie Mandela, décédée lundi à l'âge de 81 ans. Comment a-t-elle contribué à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud? Quel rôle a-t-elle joué en tant que militante de l'ANC durant les 27 années de prison de son époux Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel? L'image de celle que le peuple sud-africain appelait affectueusement Winnie, a-t-elle été écornée par des dérapages politiques et des affaires de corruption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Mali, l'éducation des enfants souffre à Mopti. Cette année, des centaines d'écoles sont fermées dans la région en raison de l'insécurité qui y prévaut. Compte rendu de notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Depuis 2012, la situation des écoles dans la région de Mopti se dégrade. Le taux de scolarisation est l'un des plus bas au Mali, 51% contre 76% au plan national. À cela vient s'ajouter leur fermeture de façon crescendo pour des raisons d'insécurité. Amadou Degeni est le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti.
Aujourd'hui, dans l'Académie de Douaza, il y a 183 écoles fermées au cours d'une année. Et nous, à Mopti, ici, dans l'Académie de Mopti, nous sommes actuellement à 257 écoles fermées. Et tout ceci à cause de la recrudescence de cette crise-là.
Ces fermetures des classes ont obligé des enseignants à quitter leur poste. Un parmi eux qui a voulu garder l'anonymat témoigne sur les raisons de leur déplacement.
Une nuit, les djihadistes sont venus nous menacer de fermer l'école et quitter le village.
Pourquoi ?
Bon, ils sont contre l'administration française. Tout ce qui est français, ils sont contre. Ils sont venus dans le village avec mon nom. Ils étaient au nombre de 5, tous armés. Ils cherchaient côte à côte voir le directeur. Bon, heureusement pour le directeur, ce soir-là, il était absent. Ils ont dit ils vont aller ce soir quand même. Mais demain soir, à l'heure pareille, ils reviendront. S'ils trouvent un ancien dans le village, et ils vont le tuer.
Avec ces menaces, les enseignants se sont vite repliés avant d'être réaffectés sur d'autres sites plus sécurisés. Ils laissent derrière eux des milliers d'enfants désœuvrés et exposés à tous les dangers, ce qui inquiète les parents d'élèves. Nanourou Daou est un des responsables des parents d'élèves à Mopti.
Un enfant qui n'est pas instruit, il est appelé à faire quoi que ce soit. Et tu as vu, aujourd'hui, c'est que le courant nous encourage par rapport à l'insécurité. Mais c'est les gens qui ne sont pas généralement instruits. Parce qu'une fois qu'on est instruit, on sait faire la part des choses. Mais quand on n'est pas instruit là, on est à la part de tous les dangers.
Pour éviter ces dangers, des initiatives sont en cours. C'est une stratégie adoptée pour récupérer les élèves des écoles fermées. Amadou Degeni, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti.
Il a été demandé aux parents de faire venir leurs enfants dans des localités où ils peuvent étudier. Maintenant, ceux qui n'ont pas de parents ailleurs, qui ne peuvent pas aller ailleurs, et c'est là où nous avons adopté des stratégies. C'est le cas, par exemple, des SASAP, la stratégie de scolarisation accélérée, les passerelles notamment. C'est-à-dire, on a pris des gens même du village qui ont un certain niveau, on leur a donné une formation pédagogique et qui sont aujourd'hui en train de procéder au regroupement des enfants afin de leur assurer le minimum éducatif.
Assurer l'éducation des enfants est un de leurs droits qui est en train d'être bafoué à cause de la crise que connaît le Mali aujourd'hui. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
En République démocratique du Congo, l'insécurité dans le territoire de Djougou affecte l'économie de la province d'Ituri. Au marché de Bounia, les prix de certaines denrées alimentaires ont doublé, voire triplé. Selon la société civile en Ituri, cette insécurité ainsi que les déplacements de population risquent de créer une situation de famine. Reportage de Charlie Kassereka, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Bounia.
Les légumes, fruits, les poissons et autres produits des champs deviennent de plus en plus rares sur les marchés et leurs prix ont doublé, comme par exemple les poissons et les maniocs, nourriture de base pour les Ituriens. Au grand marché, les vendeuses de poissons d'Ilar Calbert, situées à une trentaine de kilomètres de Bounia, déplorent les tracasseries, pillages et kidnapping sur la route depuis un certain temps. L'une d'elles raconte son histoire à VOA Afrique.
Sur la route, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Pillage, tuerie. Avant, c'était facile d'écouler 150 à 180 kg. Aujourd'hui, difficile de vendre même 100 kg. L'argent ne circule plus.
Pour les ménagères, difficile de remplir leur panier et satisfaire tous les enfants à la maison. Angèle, mère de 4 enfants, est venue acheter du poisson ici au marché.
Je suis venue acheter les poissons, les demi-kilos. Ça coûte 3000 francs. Avant, ça coûtait 1500 francs. Beaucoup de gens de l'intérieur qui nourrissent Bounia sont déplacés suite à l'insécurité.
L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage redoute des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire si la situation perdure. Locadi Bonaventure.
On doit avoir perdu plus de même 50% de la production. Ce qui fait qu'avec un 5 dollars, une maman ne peut pas satisfaire son panier ménager et puis bon, ça crée des problèmes.
La société civile appelle à un rétablissement rapide de la sécurité dans la région de Djougou et va jusqu'à demander même la démission du gouverneur d'Ituri. Jean Bosco Lalo est le coordonnateur des activités de la société civile ici en Ituri.
Que le gouverneur actuel soit relevé de ses fonctions parce que finalement, on se retrouve devant une personne qui n'est pas à mesure de faire avancer la province, qui n'est pas à mesure de sécuriser sa population. Et nous avons demandé dans nos documents des plaidoyers que d'ailleurs Djougou et même l'Ituri soient déclarés comme une zone sinistrée au vu des drames qu'on a connus.
L'armée congolaise dit mener actuellement des opérations de ratissage sur les terrains pour favoriser les retours des déplacés. Avec une population estimée à plus de 600 000 habitants, la ville de Bounia, chef-lieu de la province d'Ituri, vit des moments difficiles avec un afflux de plus de 50 000 personnes venues de Djougou et qui vivent dans des camps de déplacés et d'autres dans des familles d'accueil. Charles Kasereka, à Bounia, à Nitouri, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump appelle à un durcissement des lois sur l'immigration. Il a assuré qu'il n'y aura pas d'accord sur les Dreamers, immigrés entrés illégalement aux États-Unis lorsqu'ils étaient très jeunes en compagnie de leurs parents. Le point avec Idriss Fall.
C'est par une salve de tweets que le président Donald Trump a appelé dimanche à un durcissement des lois d'immigration, ajoutant qu'il n'y aura aucun accord sur les bénéficiaires du programme DACA qui protégeait de la déportation ces jeunes immigrés entrés illégalement aux États-Unis en compagnie de leurs parents. Les gardes-frontières ne peuvent pas faire normalement leur travail à cause des lois libérales ridicules comme celles qui permettent d'arrêter puis relâcher, a écrit le président américain. Il a ajouté que des caravanes d'immigrés clandestins sont en train d'inonder la frontière en paraphrasant un bandeau de la chaîne Fox News. Dans un autre tweet, M. Trump accuse le Mexique de faire très peu ou de ne rien faire pour arrêter ce flux de migrants vers les États-Unis. Il a même menacé de mettre fin au traité de l'ALENA, l'accord de libre-échange en Amérique du Nord. En se rendant à l'église pour les fêtes de Pâques, M. Trump est revenu à la charge.
Le Mexique doit nous aider à la frontière. S'ils ne vont pas nous aider à la frontière, c'est une très mauvaise chose entre nos deux pays. Le Mexique doit nous aider à la frontière et beaucoup de gens sont en train de venir pour profiter du programme. Ils avaient une grande chance, mais les démocrates l'ont fait sauter. Ils avaient une très grande chance, mais nous allons voir de plus près.
Le programme DACA a été mis en place par l'administration Obama. Il protégeait de la déportation des enfants amenés illégalement aux États-Unis par leurs parents. Ils pouvaient rester sur le sol américain pour étudier ou travailler. En septembre dernier, l'administration Trump a mis fin à ce programme. Il avait donné 6 mois au Congrès pour trouver une solution définitive à ceux qu'on surnomme les Dreamers. Au début, le président Trump avait dit qu'il serait d'accord pour protéger ces migrants clandestins si, en échange, le Congrès accepte de financer le mur le long de la frontière avec le Mexique. Finalement, malgré tous les compromis entre républicains et démocrates, le récent budget fédéral signé par le président Trump de l'ordre de 1300 milliards de dollars ne mentionne pas du tout une quelconque protection pour ces Dreamers. Ils sont toujours en sursis car des juges fédéraux ont ordonné à l'administration Trump de garder certaines parties du programme DACA en attendant une décision de la justice américaine.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Elena, Elena, yeah. Hi.
Ma belle, aïe. Dis-moi ma belle si tu es bien réelle, réelle. Jusqu'à présent, faut dire tu manquais à l'appel. Désormais, j'ai juré, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser, oh, aïe. Sans rien demander, moi je vais tout te donner. Ah, 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 ah. Un peu, beaucoup, j'ai le
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia, Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.